Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ah, le cinéma, il paraît qu'en 2016, le 7e art a battu tous les records de fréquentation avec 213 millions d'entrées en France. Les salles obscures ont fait le plein, comme jamais ou presque depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, si l'on est amateur de cinéma, l'on n'est pas toujours cinéphile. Aussi, pour nous aider, je vous propose cette émission Vivante Église, le dernier vendredi de chaque mois appelé le Ciné-Club de Vivante Église. L'occasion de parler de l'actualité du 7e art et de chefs-d'œuvre humanistes et religieux. Cette émission Vivante Église, voilà, il y en a plein de nouveaux concepts d'émissions en cette rentrée. Je rappellerai peut-être lors d'une émission, enfin une émission spéciale pour parler des émissions spéciales. Non, je plaisante évidemment. Donc cette émission qui sera donc le dernier vendredi de chaque mois, le Ciné-Club de Vivante Église, avec autour du plateau nos deux principaux invités qui, je l'espère, vont devenir les compères de cette émission. Paul Dima, intervenant sur les questions du 7e art à l'Institut catholique de Toulouse et au Coteau Païs, donc centre lié aux jésuites, et animateur pardon, du Ciné-Parole, dont on parlera dans un instant. Bonjour Paul.
Bonjour.
Et Louis-Marie Seller, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, donc peut-être plus connu de nos auditeurs. N'oubliez pas l'ouvreuse, c'est le mercredi à 19h. Bonjour
Louis-Marie. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors au début de cette émission, peut-être peut-on dire quelques mots, Paul Dima, pour commencer sur Ciné-Parole, car tout est parti de là. Si j'ai bien compris, vous allez me dire, c'est en partenariat avec l'ABC, qui est donc un cinéma d'art et d'essai à Toulouse, et avec lequel vous avez monté donc un ciné-club qui s'appelle Ciné-Parole. Dites-nous un mot de ce que c'est que ce ciné-club.
Alors ce ciné-club est né l'an dernier à partir d'une frustration. Nous trouvions très dommageable qu'à la fin des films, tout le monde parte comme si c'était rien passé et que les seuls commentaires qu'on entendait sur le film, c'est « t'as aimé, oui ou non, c'était bien, bof, je sais pas ». Donc là, on ne disait rien des films et je trouvais ça extrêmement frustrant, je le redis, de partir comme ça. Voilà. Alors que le cinéma est un lieu qui... pose des questions, qui traite des sujets d'aujourd'hui ou du passé et qui mérite, enfin qui invite à en parler. Et alors, on s'est dit, pourquoi ne pas monter un ciné-club qui donnerait le temps de parler avant pour présenter le réalisateur et situer le film dans l'œuvre générale du réalisateur, et puis après pour dire... Et nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire ayant vu ça et entrer en dialogue avec le film?
Et qu'est-ce que ça remue en nous
Est-ce qu'on sait bien lire? On revient, on est en dialogue permanent avec le film pour pas partir ailleurs, mais pour dire tiens, est-ce que vous avez vu cette séquence-là? Comment, à quel moment ça vient et pourquoi ça vient comme ça? Comment c'est filmé et qu'est-ce que ça dit? Donc, on est à la fois dans une approche qui dit ben, le film parle d'aujourd'hui ou de questions qui peuvent nous toucher. On peut avoir des questions à dire aussi à l'endroit du film, écouter les points de vue des autres, et puis rentrer, je dirais, dans une intelligence de l'écriture cinématographique.
Prochain Ciné-Parole, c'est donc mercredi prochain, c'est ça?
Non, non, il y a deux séances pour Ciné-Parole.
Pardon.
Une en matinée et une en soirée. Alors la prochaine, c'est
lundi 6 à 14h30 et le mardi 7 à 20h45.
Voilà, on en reparlera ça avant chaque pause. En tout cas, le prochain film dont vous allez parler, puisqu'à chaque fois, donc c'est un film évidemment qui est à l'affiche, c'est Carré 35. Alors, cette fois-ci, on n'a pas de chance, parce qu'en fait, Carré 35, c'est le film dont vous allez parler, mais il n'est pas encore sorti. Néanmoins, on a trouvé une bande-annonce, et puis on peut dire quand même quelques mots sur ce film. On va commencer par écouter cette bande-annonce, et après, on commentera tout ça.
Fin des années 50, mes parents se marient à Casablanca. Sur ces images, je ne peux qu'observer les allures d'un homme et d'une femme auxquels doit arriver une grande douleur et qui ne savent pas encore.
On n'en a pas parlé beaucoup de cet enfant.
Non, mais je...
Moi, j'ai longtemps cru qu'on était
oui.
quatre,
non,
deux,
non.
que deux enfants, puis finalement...
Non.
Elle parlait de qui?
à notre petite fille qui est décédée, toute jeune.
C'est quand même étrange de tout brûler. Quand on a un enfant, on garde toujours une photo.
Oui, mais pas moi. J'aime pas aller en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec une photo? Pleurer?
Je vis. Nous vivons avec un fantôme.
Elle était mignonne comme tous les belles petites filles et les beaux petits garçons.
Ma fille.
L'enfant que j'étais n'osait pas questionner. Ma mère a voulu oublier son enfant, tout comme elle a voulu oublier la terre d'Afrique du Nord sans jamais plus y revenir. Je sais peu de choses. Je sais que l'histoire se situe ici, à Casablanca.
Voilà donc extrait donc de Carré 35, la bande-annonce donc de ce film, un film d'Éric Caravaca. À vous Louis-Marie Soler, si vous deviez résumer ce film, c'est une espèce de intrigue thriller familial.
Exactement, j'allais dire c'est compliqué, il faut pas trop en dire parce que effectivement c'est un documentaire qui se déroule un peu comme une enquête policière. Je dis un peu seulement. Éric Caravaca se penche sur le passé de sa famille et le contexte y est important. Vous l'avez entendu. Le lieu, c'est l'Afrique du Nord, le Maroc en particulier. L'histoire. En fait, il se pose la question, il veut savoir pourquoi sa sœur aînée, qui est décédée à 3 ans, eh bien, est complètement absente de la vie de la famille, absente de tous les albums familiaux, alors que c'est une famille qui, jusqu'au moment du décès de cet enfant, passait beaucoup de temps à tourner des films, en Super 8 à l'époque.
D'ailleurs, c'est comme ça que commence le film, voilà. On voit en Super 8 le mariage de ses parents,
c'est exactement.
Un couple rayonnant.
Et on voit aussi les parents sur la plage, on en verra d'autres extraits de films Super 8. Et il va se pencher donc sur cette histoire, ce pourquoi cet enfant a été complètement gommé de l'histoire familiale. Pourquoi sa sœur aînée n'est plus là à tout l'essence du terme.
Voilà, alors on dira pas peut-être un des secrets du film, mais cet enfant, elle avait quelque chose aussi de particulier. Paul Dima, si on doit extrapoler, sans l'avoir vu, on peut imaginer le type de thématique que ça va soulever.
Alors, c'est un petit peu une enquête sur un cadavre dans le placard, pour parler un peu de façon populaire. C'est-à-dire que le réalisateur Éric Caravaca savait qu'il y avait un secret, mais il ne savait pas lequel. C'est-à-dire que non seulement...
C'est sa famille, en fait.
C'est sa famille.
Hein. C'est autobiographique.
Hein. C'est ses parents, c'est sa sœur aînée. Et comme réalisateur, il raconte qu'il a tourné une fois une scène où quelqu'un avançait vers le fond du couloir. Il s'est mis à pleurer. Il dit, mais pourquoi j'ai des émotions comme ça? C'est-à-dire que non seulement on avait caché ou tué l'existence de cette fille aînée et de sa mort, mais c'était vécu par les parents comme quelque chose de très douloureux, on peut l'entendre dans la bande-annonce, et de honteux. Et c'est des parents aussi qui ont dû émigrer du Maroc en France, et on voit que la grande histoire et la petite histoire se croisent, l'histoire familiale et l'histoire post-coloniale, avec de la honte quelque part et des choses qui sont tellement pesantes qu'on ne peut pas parler.
Voilà, donc Carré 35, c'est un film à l'affiche prochainement, en tout cas la semaine prochaine, et qui sera donc le film du prochain Ciné-Parole. Je redonnerai donc les dates de ce prochain Ciné-Parole juste avant la première pause musicale. Alors maintenant, on va parler on va plus vite que de coutume. D'habitude, on s'arrêtera un peu plus longuement sur ce film d'actualité, mais là, on a un peu joué de malchance. On va parler d'un chef-d'œuvre. À chaque fois, on s'est dit donc qu'on allait prendre le film d'actualité, enfin le film à l'affiche, dont on va parler ciné-parole, et un chef-d'œuvre humaniste et un chef-d'œuvre spirituel. Alors le chef-d'œuvre humaniste, vous avez choisi le film Le Fils, un film des frères Dardenne, donc très connu, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas qui sont très connus, ou moins des amateurs de cinéma. Même chose, on va commencer par écouter la bande-annonce, qui est un peu particulière, je vous préviens, et derrière on parlera de ce film.
Monsieur Bird.
C'est lui?
Non.
C'est pas chiant.
Calme-toi. Calme-toi.
Monsieur Kennedy, son nom.
Calme-toi. Calme-toi. C'est lui. Magali.
Vous voulez de l'aide, monsieur?
Non, ça va, reste dans la voiture. Tiens. Bois.
Personne ne ferait ça.
Je sais.
Pourquoi tu le fais alors?
Je sais pas.
Voilà, donc ça c'est le fil des frères Dardenne, en tout cas c'est la bande-annonce. Alors je vais essayer de résumer ce que j'ai compris du film que j'ai quand même vu, donc et puis je vais vous laisser peut-être commenter Louis-Marie Seller ou Paul Dima. Après on parlera un peu du réalisateur et puis un peu plus longuement de ce film, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un chef-d'œuvre. Donc Olivier est formateur en menuiserie, il travaille dans un centre de réinsertion sociale et puis un jour la directrice lui demande d'accueillir Francis, un adolescent qui est désireux d'apprendre les métiers du bois. Olivier refuse, prétextant qu'il a déjà trop d'apprentis, et puis ce jeune donc est finalement placé dans son atelier et se noue une espèce de relation très particulière entre ces deux personnages, puisque Olivier commence à, d'une certaine manière, à épier ses mouvements, à être très attentif à ce jeune garçon. Et évidemment, pendant une bonne partie du film, on se demande ce qui lui prend à cet homme. Comment vous compléteriez l'introduction Louis-Marie Seller ou Paul Dima?
C'est
Louis-Marie Seller.
Le film, on parlait tout à l'heure à propos du film d'Éric Caravaca, du choix de cheminer un peu comme une enquête policière. Là, c'est pas tout à fait le cas, mais on va découvrir petit à petit pourquoi cet homme va suivre sans arrêt cet enfant. Et ce cheminement va l'amener à réfléchir sur ce qu'il est et sur ce qu'est le rôle d'un père. Et d'ailleurs, les frères Dardenne, puisque c'est un film des fameux frères belges, devait s'appeler au départ le père et non pas le fils.
Voilà. Paul Dima, peut-être juste, est-ce qu'on peut dire quelques mots des frères Dardenne, en fait, et de la particularité aussi de leur cinéma et de la manière de filmer, parce que là, c'est quasiment caméra à épaule sur le cou d'Olivier, et on se dit, mon Dieu, comment on va tenir 2 heures.
Tout à fait. Les frères Dardenne nous invitent à épouser le point de vue d'Olivier, c'est-à-dire que la caméra est presque en caméra subjective, ou alors on voit ce jeu un peu du chat et de la souris entre ce formateur, Olivier, et le jeune qui arrive chez lui. Et alors les frères Dardenne sont très connus pour leur approche sociale, des petites gens, ils se situent dans la lignée du cinéma anglais, des Ken Loach, Frears, etc.
Mike Lee.
C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs.
C'est presque des romans sociaux, quoi, si on devait comparer ça au roman de la fin du 19e.
Voilà, mais avec une épure dans l'approche. C'est des histoires qui peuvent être complexes, mais qui sont traités de façon... Ils n'en rajoutent pas du côté de la mise en scène. Alors, on peut se souvenir de
voilà, est-ce que vous pouvez citer d'autres films
qui ont connu des grands films grand succès qui les ont fait connaître? La Promesse, en 96, Rosetta, en 99. Plus récemment, on peut citer, avec Marion Cotillard, Deux jours, une nuit. une femme qui est en voie de licenciement et qui doit faire pendant le week-end, d'où le titre de Jour et Nuit, le tour de ses collègues pour dire est-ce que vous renoncez à votre prime pour que je sois réembauché ou est-ce que vous me laissez dehors. Donc vous voyez, c'est une dramatique toujours très serrée dans leur film.
C'est comme une plongée à chaque fois dans un univers, souvent dans des univers sociaux, on va dire, c'est un peu la marque des Frères Dardenne. Là, pour le coup, c'est pas un univers social, c'est beaucoup plus introspectif.
C'est à la fois l'univers social, comme l'a dit Paul Dima, et ils insistent, les Frères Dardenne, sur le rôle du travail aussi. Le travail est toujours omniprésent dans leurs films, et dans la filmographie en général, parce que c'est à partir du travail, tout peut se jouer, parce qu'être sans travail, c'est être condamné à la solitude. C'est comme ça qu'ils le voient, et c'est comme ça qu'ils le montrent, et non seulement à la solitude, mais à l'inutilité.
Et ils dépeignent ça un peu notre société, évidemment.
Exactement. Et en ça, le fils est fondateur de l'œuvre des Dardenne, parce que c'est dans ce film-là que tous les thèmes centraux de leur œuvre, eh ben, ils les ont développés pour la première fois, à savoir le conflit entre parents et enfants, entre société en perdition et jeunesse égarée, et entre monde libéral et exploiteur. Voilà, c'est ça l'univers des Frères Dardenne. Le fils arrive dans leur filmographie juste après Rosetta, dont a parlé Paul Dima, qui est le film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et qui les a rendus très célèbres. Depuis, chaque fois qu'ils sont passés par Cannes, et c'est vrai que récemment, ça fait mentir ce que je vais dire, mais ils ont eu un prix, quoi. Ils ont chaque fois été reconnus.
Paul Dima.
Alors, je continue ce que disait...
Vous avez considéré que c'était un chef-d'œuvre. Alors dites-nous peut-être pourquoi vous considérez que c'est un chef-d'œuvre et que c'est fait partie des films qu'il faut avoir dans sa bibliothèque et qu'il faut voir.
Oui, qu'il faut voir et revoir si on veut. Parce que la forme et le fond se tiennent. Il y a une cohérence de propos et de construction filmique. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, Louis-Marie évoquait la place du travail. Et on voit bien que, on va pas dévoiler le scénario tout de suite, ou l'intrigue, que l'apprentissage ici de ce jeune qui sort d'un centre de réinsertion est plus que l'apprentissage du travail du bois.
Qui sort pas d'un centre de réinsertion, qui arrive dans un centre de réinsertion, mais qui sort, on découvrira plus tard, d'une situation plus compliquée encore.
Donc là, les gestes d'apprentissage sont pas accessoires du tout ici. Ils sont, on pourrait dire, la matière même du film où il s'agit de mettre en perspective, de façonner, de prendre les dimensions du territoire, de la future relation entre ce jeune et cet adulte qui est là pour lui apprendre le métier, mais plus que le métier. À un moment, le jeune dit « Ah ben, vous avez la mesure dans l'œil ». C'est-à-dire qu'il sait dire la juste mesure des choses.
Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est... je vais ajouter un tout petit commentaire et puis on va écouter un autre extrait. C'est que, donc on voit ces deux hommes qui, d'une certaine manière, enfin en tout cas surtout Olivier, donc le formateur en menuiserie, qui est donc de plus en plus attentif à ce jeune adolescent, Francis, qui se doute de pas grand-chose. J'ai remarqué aussi que... d'abord, il y a très peu de dialogue, il y a une manière particulière de filmer. Il marche parfois comme un peu en accéléré aussi dans le film. Les paroles sont souvent abruptes. Alors on se dit, bon, ça tient peut-être à ce type de milieu professionnel, mais du coup, tout ça, ça fait quand même monter une tension très importante dans le film. Et donc, alors on va pas livrer tous les secrets du film, mais à un moment, donc cet Olivier fait cet aveu à ce jeune Francis.
Cinq mètres quatre-vingts
divisé par deux.
Deux maintenant, donc.
Le garçon que t'as tué, c'était mon fils.
Mais papa, reviens! Reviens! Attends! Attends!
Voilà, alors on on comprend évidemment l'aveu qu'il lui fait. Évidemment, on raconte pas la fin du film, même si c'est pas loin d'être la fin. Peut-être pour vous relancer, pour finir de vous relancer, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que cet Olivier, en fait, on le voit quelque part juste à travers ses émotions, faire tout un cheminement intérieur. Pour le coup extrêmement profond. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire sans révéler la fine pointe ou le secret du film Paul Dima, mais de fait c'est quand même un jeu d'acteur assez exceptionnel. D'ailleurs il a été primé pour ça. On le filme de dos, c'est quasiment le seul personnage, on voit pas grand chose d'autre et on voit petit à petit ce qui se passe quelque part dans le cœur de cet homme.
Cette scène de l'aveu n'intervient qu'après 40 minutes depuis le début du film, donc on sent qu'il y a une tension qui monte. Mais on n'en perçoit pas la clé parce que on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, on voit bien qu'il y a chez cet homme-là une tension entre sa pédagogie qu'il sait appliquer à tous ses élèves bienveillants. Et il a une forme de rudesse. Enfin, il ne lâche pas ce jeune-là. Il est même un peu brutal avec lui à un moment. Ils vont prendre un café. Et ce jeune, c'est un apprenti, il a pas d'argent. Et il dit, non, c'est lui qui paie. Voilà, il veut pas lui payer le café.
Il le cadre, en tout cas, c'est sûr. Oui, même plus que ça.
C'est surprenant de la part de ce monsieur. Et on sent bien qu'il y a une tension à l'intérieur de lui-même, d'attirance, de répulsion. En plus, sa femme lui reproche d'avoir accueilli ce jeune parmi ses stagiaires. C'est un motif supplémentaire de désentente entre eux. Et lui, il est travaillé par... qu'est-ce qui a poussé ce jeune? Qu'est-ce qui a... Alors, on ne va pas tout raconter. Il fait tout un travail sur lui-même.
Un dernier commentaire, Louis Marie-Solaire, et puis une première pause.
Les frères Dardenne s'étaient inspirés d'un fait divers qui s'était passé en Angleterre, à Liverpool en particulier. On ne va pas rentrer dans les détails de ce fait divers, mais c'est deux adolescents qui avaient kidnappé un garçon plus jeune qu'eux et qui finalement l'avaient tué. Mais ce qui a intéressé les frères Dardenne, c'était pas de filmer le drame, pas souligner, mais c'est plutôt d'imaginer ce qui se passe dans la tête du père. D'imaginer ce qui se passe dans la tête du père et d'une mère aussi. Parce qu'en fait, il est à la lisière, vous l'avez dit justement, Emmanuel, on ne suit que ce père. Alors, il a un peu les deux rôles, parce qu'en plus, il ne vit plus avec sa femme, puisque le couple a explosé après la disparition de l'enfant. Et c'est ça, c'est pas un film, c'est à la fois un film de vengeance, mais qui est très nuancé, et qui est une chronique sociale, finalement, magnifiquement illustré par ces images d'une force étonnante.
Voilà, film sur la vengeance, moi je dirais plutôt que c'est un film sur la rédemption. Mais voilà, peut-être que j'en ai trop dit, on va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après pour parler de deux autres films.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc d'un nouveau genre, en tout cas une nouvelle série de cette émission, le Ciné-Club de Vivante Église, avec Paul Dima, intervenant donc sur les questions du cinéma à l'Institut catholique de Toulouse et au Cotopaïs, lié aux jésuites à Toulouse aussi, et animateur donc de Ciné-Parole, ce Ciné-Club, donc en lien avec l'ABC, cinéma toulousain. Louis-Marie Seller, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse sur nos ondes, je rappelle, mercredi à 19h. Parlons maintenant de deux autres chefs-d'œuvre. Alors, on s'est dit donc, pour rappel, à chaque fois qu'on allait parler d'un film à l'affiche, en l'occurrence donc c'est Carré 35, on en a parlé au début de cette émission, qui, pour une fois, dont on n'a pas pu parler longuement parce que il n'est pas encore sorti. On a parlé du Fils des Frères d'Ardenne, chef-d'œuvre humaniste, on en choisira un à chaque fois, et à chaque fois un chef-d'œuvre dit spirituel. Alors là, comme on était court sur le premier, on en a choisi deux. On va parler du film Thérèse d'Alain Cavalier. Je vous propose, comme à chaque fois, qu'on commence par écouter la bande-annonce. Là, ça va être un peu rapide parce qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette bonne annonce, donc on va reprendre maintenant. Donc, c'est un film d'Alain Cavalier, vous nous direz, Louis-Marie Seller, donc, qui est ce réalisateur. Je vais essayer de le résumer comme je peux, et puis peut-être Paul Dima vous compléterait. C'est un film, et ça c'est vraiment un défi assez extraordinaire, sur la vie d'une sainte. En plus, c'est pas n'importe quelle sainte dans l'histoire de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc qui n'est rien moins que sainte, et en plus docteur de l'Église, proclamée docteur de l'Église en 1997. Donc très très grande, on va dire, dame, ou très grande sainte. Cette femme qui en plus a une vie assez simple, puisqu'elle est rentrée au Carmel très jeune, elle est morte très jeune. On a un livre qui s'appelle L'Histoire d'une âme, qui a été publié peu de temps après sa mort, qui est devenu un immense best-seller, où elle raconte en fait la vie de son âme. Et pour le coup, si vous l'avez choisi, c'est que c'est réussi. De fait, je l'ai vu et je trouve en effet que c'est un film très particulier aussi, mais magnifique. Qu'est-ce que vous diriez, Paul Dima, pour compléter cette présentation, et pourquoi est-ce que vous considérez que... Ah non, on laissera Louis-Marie peut-être parler un peu du réalisateur avant.
La bande-annonce donne le ton. Vous avez vu Une voix seule, et le titre, c'est pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Thérèse. Ce à quoi s'attache Alain Cavalier dans ce film, c'est un petit peu le credo de son écriture cinématographique, de plus en plus épurée, c'est comment nous donner à partir du visible, à aller au-delà du visible. Il ne nous emmène pas au spectacle, il nous donne à voir un chemin intérieur. Je vais dire une petite anecdote. Il a cherché pendant longtemps un couvent pour tourner ce film. Et puis en fait, il a opté, après bien des recherches, pour un tournage en studio avec comme seul fond une toile grise. Donc très épurée, avec un choix d'objectifs, de focales, qui nous met de façon frontale à proximité des personnages. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que c'est pas l'anecdote qui l'intéresse, c'est pas le décorum, c'est pas le côté théâtral, voire cinématographique, c'est comment un art peut, à partir du visible, conduire, je dirais, par le visible au-delà du visible, sur ce cheminement intérieur de Thérèse. Il a choisi exprès le nom de Thérèse pour dire, si une jeune fille qui a 15 ans fait le choix de s'enfermer dans un couvent,
de rentrer dans un couvent, voilà, en tout cas.
De s'enfermer,
on peut voir
il le dit, pour s'ouvrir sur la vie intérieure et sur le monde. Donc, il y a cette tension de l'intime, du, du fermé et de l'ouverture à la transcendance et au monde entier.
Alors, je vais juste dire quelques mots pour ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est donc une des filles des époux Martin, et je ne retrouve plus, pardon, peut-être vous pourrez m'aider, Paul Dima, le nombre de filles qu'ils avaient. En tout cas, elles rentrent toutes.
Vous en avez au moins trois, je crois.
Non, je crois que c'est, je me demande, c'est ou pas plus. 5 ou 6. Bref, nos auditeurs.
Je suis loin, mais il y en a.
Nos auditeurs nous pardonneront, et ça doit être 5.
Ils sont toutes entrées au Carmel.
Toutes entrées au Carmel. Oui. Voilà, Louis et Zélie Martin, ses parents, qui ont été chacun béatifiés puis canonisés. C'est le premier couple de saints de l'histoire de l'Église. Cette jeune fille qui donc va jusqu'à Rome avec son père pour demander à rentrer au Carmel plus tôt que prévu, c'est dire l'âme de feu que c'était, parce qu'à l'époque il fallait quand même une certaine audace, et donc décédée très jeune. Et puis on se dira qu'elle était l'étoile de son pontificat. Elle est déclarée sainte donc peu de temps après, etc., etc., jusqu'à être docteur de l'Église en 1997 par Jean-Paul II. Quelques mots peut-être d'Alain Cavallier.
Alain Cavallier, c'est un réalisateur particulier dans le cinéma français. Un grand réalisateur, mais un réalisateur discret, qui a toujours filmé comme un artisan. Il a commencé sa carrière très tôt. Il est âgé maintenant de 84 ans. Quelques Toulousains chanceux ont pu le voir dimanche dernier. Il est venu présenter 6 portraits extraordinaires. Et il a commencé... simplement, toujours, il a toujours tourné avec une petite équipe de fidèles, toujours les mêmes, et souvent avec sa fille, Camille de Casabianca. Elle porte pas le même nom que lui, mais c'est sa fille, avec laquelle il écrit les scénarios. C'est d'ailleurs sa fille qui a écrit le scénario et les dialogues de Thérèse.
Voilà, il y a quand même quelques dialogues, il faut le dire.
Oui, oui, il y a quelques
moments aussi où on entend la voix off de Thérèse, en fait, qui cite ces citations d'extraits de La vie de son âme et donc d'extraits d'Histoire d'une âme, on imagine.
Exactement. Alors, bon, revenir sur toute la carrière, il est important de savoir quand même que ces films ont connu du succès, mais le plus souvent un succès d'estime, parce que c'est vraiment un très grand réalisateur. Et avec Thérèse, il a reçu un accueil impressionnant, à la fois des critiques, mais du public aussi. C'est le film qui, dans sa filmographie, qui a eu le plus grand succès. Il a fait plus d'1,5 million d'entrées de spectateurs. C'est un film qui a été récompensé, à Cannes. Il a eu le prix du jury, qui était présidé à l'époque par Sidney Pollack. Il a eu 6 Césars. C'est-à-dire en mars suivant, puisque le film était présenté en 86, en 87 qu'il a obtenu tous les Césars. Et c'est vous dire si c'est important, face à lui, face à Thérèse, au César, il y avait Jean de Florette de Claude Berry, et il y avait 37-2 le matin de Benex. Et il a raflé 6 Césars, et parmi les plus prestigieux.
Alors, je propose aussi qu'on écoute un extrait d'une interview qu'Alain Cavallier avait donnée, non pas après la sortie de Thérèse, mais d'un autre film qui s'appelle Paradis. C'était une interview sur Europe 1, où vous allez voir, le journaliste lui pose une question et il parle en fait de sa vie spirituelle.
Qu'est-ce que c'est le paradis pour vous, Alain Cavallier, parce que vous donnez ce nom à votre film? C'est quoi? C'est le bonheur? C'est la beauté? C'est la résurrection?
Le paradis, bon, à la base, je pense que c'est mon plaisir de vivre et mon plaisir de filmer et d'essayer de un peu le transmettre. Mais je pense que c'est une mini-dépression, ce que j'appelle une mini-dépression de bonheur, c'est-à-dire que j'ai eu 20 secondes quand j'avais 7 ans, que j'avais été formé religieusement d'une façon très forte.
Je rappelle que vous êtes le réalisateur de Thérèse.
Oui, j'ai...
Un grand moment d'extase pour les catholiques.
J'ai traversé ça. Et qu'au moment où j'ai ingéré, au cours de ma première communion, une hostie dont on m'avait dit que c'était le corps du Christ, j'ai eu un éblouissement de bonheur absolument mais incroyable. J'ai été inondé. Et j'ai retrouvé ça dans ma vie, 30 ans après. Alors, en entrant à Saint-Augustin, au supermarché, et en allant m'acheter des roll-mops, et c'est revenu au milieu du magasin exactement de la même façon. Et c'est un des mystères de ma vie.
Paul Dima, c'est une manière de parler aussi de Thérèse de l'Enfant Jésus pour faire connaissance avec cette femme immense. Il faut évidemment voir le film et lire une histoire d'une âme. Mais voilà, plus d'un siècle de distance, un homme fait aussi une expérience de Dieu. Alors peut-être pas à la mesure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'est très beau. Comment vous commenteriez ce passage pour ceux qui ont du mal peut-être à rentrer dedans?
Alors, je crois qu'il a été, il a lu, La vie d'une âme, il s'est beaucoup documenté, il a longuement regardé les photos de Sainte Thérèse qui sont beaucoup moins mièvres que les statues qu'on en a faites. C'était une personne qui avait du caractère et de la volonté. Et il a voulu, par la construction même de son film, dire l'histoire de l'âme de cette Thérèse, une jeune fille qui, par amour du Christ, rentre à 15 ans dans un Carmel. Et il construit son film pour s'attacher à ce qui est vécu de l'intérieur par Thérèse. Alors, ce n'est pas une biographie de Thérèse. C'est des petites séquences, un peu comme des séquences relativement brèves, isolées les unes des autres par un passage au noir, qui sont un moment précis de la vie, de l'activité, de la vie en communauté, de la préparation de la cuisine. Faire avec amour des petites choses, disait Thérèse. Eh bien, il filme de la même façon. Il filme avec amour des petites choses. On la voit laver le dos d'une vieille religieuse qui, sous la tendresse portée par les gestes de Thérèse, avoue que, ce qu'elle croit être un secret pour tout le monde, en fait, tout le monde le sait, qu'elle a eu un amoureux quand elle était jeune, etc. Donc, par sa présence, Thérèse amène les personnes, ses sœurs religieuses, à entrer dans le plus profond d'eux-mêmes, dans leur quête spirituelle, dans leur démarche, et elle éveille cela autour d'elle.
Voilà, donc un film quelque part sur la petite voix, peut-être bien connue d'un certain nombre des auditeurs, la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en tout cas, dont on ne cesse de parler, et en partie au micro de Vivante Église. On va finir cette émission en parlant d'un autre chef-d'œuvre spirituel, le film L'île de Pavel Longine. Alors là, je souscris des deux mains et des deux pieds à ce film, moi, que j'ai trouvé absolument splendide, très très marquant, réalisé en 2006. C'est pareil, on va écouter la bande-annonce rapidement parce qu'elle est en russe, mais au moins ça nous mettra dans l'ambiance du film.
Я ей врачам показывал, в Москву возил. Ничего не помогает. Говорят, у вас здесь, в монастыре, старец есть. А если он не поможет, я не знаю, что делать. Господи, я оставил меня.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе.
Voilà, donc L'île de Pavel Longine, sorti en 2006, je le disais, donc film qui a été primé. C'est pareil, je vais essayer de résumer ce film, même si ces films sont difficiles à résumer parce qu'en fait, ce qui se passe est la plupart du temps invisible. Je dirais que c'est probablement le cas de la plupart des films, mais là, particulièrement. Donc c'est un certain Anatoli. Le film commence comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un jeune marin. Il est attaqué avec d'autres membres de son équipage par les Allemands, par des nazis. Et il fait preuve à ce moment-là d'une grande couardise, on va dire. En tout cas, il est terrorisé par la mort. Et il tue, en fait, par inadvertance. Il est poussé à tuer par un des officiers nazis, le capitaine du bateau, un certain Tikhon. Et puis on retrouve cet homme, Anatoly, en fait, quelques dizaines d'années plus tard, je crois que 34 ans plus tard, sur la même île, où en fait, juste à côté de cette île, pardon, il y a un monastère, et c'est une espèce de folle en Christ, comme on dit. Alors je vais dire en deux mots ce que sont les folles en Christ. C'est une tradition, dans les traditions vivantes, hein, dans l'église orthodoxe, russes, mais peut-être pas que, d'hommes qui, par leur comportement, donnent l'impression aux yeux du monde en fait d'être fous et qui se révèlent en fait d'être une extrême intimité avec Dieu, d'une très grande sainteté et des hommes de Dieu exceptionnels. Qu'est-ce que vous diriez pour compléter ce tableau, Paul Di Maia ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, on pourra peut-être raconter une ou deux scènes.
Alors, d'abord sur la construction générale de ce film, on retrouve la même épure, quoique traité différemment, qu'on avait dans les deux films qu'on vient de citer, Thérèse et puis Le Fils. C'est-à-dire que on retrouve cette...
Même si c'est pas du tout la même manière de filmer. Hein,
ah non, pas du tout, non. Et le cadre est pas du tout le même. Par exemple, cette Anatoly, qui est toujours en décalage avec ce que font, disent et pensent les autres.
Donc les autres, en l'occurrence, c'est les moines de
c'est
son
les
monastère.
Moines, et puis les gens qui viennent le trouver, parce que tout perdu qu'il est, et dans un milieu où tout le monde doit être communiste et athée, il y a des gens qui viennent, prennent pour un guérisseur, pour quelqu'un qui annonce l'avenir, et qui est un conseiller spirituel.
Ou qui le prennent pour un saint, et ils viennent.
Et qui le prennent pour un saint. Et lui en souffre, il dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi, ça ? Alors que je suis qu'un pauvre homme. Et souvent, c'est moi qui annonce Dieu, mais il n'a pas demandé tout ça. Et on voit qu'il est tiraillé entre la culpabilité qu'il a d'avoir, sous la menace du, pense-t-il, tuer le capitaine qu'il aimait, et sa vie qui est... Alors, il s'occupait de la chaudière du bateau, et pour le monastère, eh bien, il s'occupe de la chaudière du monastère.
Alors, du coup, c'est une espèce de forçat, en fait, qui vit dans la chaudière. Oui. Il passe ses journées à aller casser des cailloux. De temps en temps, il va sur une île, pas très loin, en barque, où là, en fait, il crie. J'ai l'impression qu'il est à moitié fou, en fait, qui crie, en fait, sa tristesse, son désespoir.
Son mal de vivre.
Sa culpabilité, oui. Son mal de vivre, parce qu'il semble s'accuser encore du crime
qu'il pense
avoir commis.
Et il cite le psaume 50, et voilà. Il implore le ciel de le libérer de sa faute, de sa culpabilité, mais il en est malheureux, comme les pierres, et les gens viennent le voir pour être guéris, pour avoir des conseils, pour...
Et il y a une scène, Louis-Marie Seller, peut-être que vous pourrez la commenter, enfin vous ferez ce que vous voulez, il y a une scène vraiment enfin saisissante, et quand on habite pas très loin de Lourdes, évidemment on y est un peu sensible, puisque on y croit ou pas, mais il y aurait encore des miracles à Lourdes, où une femme vient avec son enfant, qui a, je crois, des problèmes de hanche, qui n'arrive plus à marcher, sa hanche est en train de pourrir. Et on voit cet homme, en fait, de Dieu, prier pour cet enfant et, en fait, obtenir sa guérison. C'est une scène qui est vraiment extraordinairement bien filmée.
C'est ces moments, évidemment, qui sont très forts dans le film de Lungin. Cette façon de tourner. Il est, Lungin, là, dans une forme de la tradition russe du cinéma. Exigeant, à la fois exigeant et contemplatif, c'est ça un peu le cinéma russe. C'est important parce que les silences, la couleur, les regards ont tous une importance. Alors découvrir. Alors évidemment, on connaît des cinéastes qui se sont déjà aventurés sur ce terrain, des gens comme Bresson, bien sûr, pour le français Rossellini, pour l'italien. On est là et vous parliez de cette scène. Il y a une autre scène que je trouve très forte, moi, qui est dans la deuxième partie du film. C'est ce qu'on appelle au cinéma un morceau de bravoure, c'est la séance d'exorcisme, qui est assez, alors là, extraordinaire, elle est impressionnante. Il n'y a pas d'effet spectaculaire, il y a juste le cri de la souffrance et l'abnégation du sacrifice, d'un sacrifice, c'est ça. Là, dans cette scène, il y a toute l'essence même du film de Lungin.
Voilà, peut-être, enfin, c'est pas rien de filmer. Alors déjà d'essayer de filmer la vie d'une âme, c'est déjà une, comment dire, un défi.
Sûr, oui.
Mais là, il filme un homme de Dieu qui peut apparaître comme un fou et qui en fait ne le serait pas. En tout cas, j'ai lu 2-3 critiques dessus. Elles ont été, semble-t-il, très partagées. Par exemple, dans, je crois que c'est Télérama qui disait la chose suivante: esthétiquement, émotionnellement, moralement, Lille se construit de hauts murs admirablement ornés, dont il y a lieu de s'inquiéter que cela réjouisse ainsi les spectateurs en Russie et ailleurs. Bref, tout le monde n'a pas compris. Peut-être faut-il être croyant. On pourrait peut-être finir là-dessus. Paul Dima, vous croyez qu'il faut être croyant pour arriver à comprendre ce film?
Peut-être que ça peut aider. Mais peut-être que ça dérange aussi la croyance, c'est-à-dire que ce personnage qui est décalé, qui fait jamais les choses comme il faut, eh bien c'est celui-là qui révèle quelque chose de Dieu, qui nous prend toujours à l'improviste et pas comme on l'attend.
Et parfois rebrousse poil, parce qu'il prend prend même son supérieur rebrousse poil en bien des circonstances.
Oui.
Voilà donc Le Fils, chef-d'œuvre humaniste. Thérèse et Lille, 3 films qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et le rendez-vous donc pour Carré 35, Paul Dima, rappelez-nous.
Alors, 2 rendez-vous pour Carré 35, donc au cinéma ABC, le lundi 6 à 14h30 et le mardi 7 novembre à 20h45. D'habitude, c'est 20h30, mais là, cette fois-ci, c'est 20h45. Et on a une page Facebook, Ciné-Parole avec un S, Ciné-Parole avec un S, où vous aurez les informations aussi.
Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous le dernier vendredi du mois prochain pour le prochain Ciné-Club de Vivante Église. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.